les buts de ces classes sont parfaitement irréconciliables. Le but des classes supérieures est de demeurer où elles sont. Le but des classes moyennes est de prendre la place des classes supérieures. Et le but des basses classes, si tant est qu'elles possèdent un but, car l'une de leurs caractéristiques immuables est d'être à ce point écrasées de corvée, que leur conscience de quoi que ce soit en dehors de leur vie quotidienne est pour le moins intermittente, est d'abolir toute distinction de classe et de créer une société où tous les hommes soient égaux. C'est donc à travers l'histoire une lutte toujours à peu près identique qui se rejoue encore et encore. Pendant de longues périodes, les classes supérieures se maintiennent en sécurité au pouvoir, mais tôt ou tard, il arrive toujours un moment où elles perdent soit leur confiance en elles, soit la capacité à gouverner efficacement, soit les deux. Elles sont alors submergées par les classes moyennes, qui enrôlent les basses classes de leur côté, en leur faisant croire qu'elles se battent pour la liberté et la justice. Aussitôt qu'elles ont atteint leur objectif, les classes moyennes renvoient les basses classes à leur ancienne position de servitude et deviennent, quant à elles, les classes supérieures. Alors, un nouveau groupe intermédiaire se sépare de l'un des deux autres, ou des deux, et la lutte recommence à zéro. Des trois groupes, seules les basses classes n'arrivent jamais, même temporairement, à leurs objectifs. Il serait exagéré de dire qu'il n'y a eu, au cours de l'histoire, aucun progrès matériel. Même aujourd'hui, en période de déclin, l'humain moyen est physiquement mieux loti qu'il y a quelques centaines d'années. Mais pas de progrès dans la richesse, dans l'adoucissement des mœurs. Aucune réforme ou révolution ne nous a jamais rapprochés d'un iota d'une égalité entre les hommes. Du point de vue des classes laborieuses, aucun changement historique n'a jamais signifié autre chose qu'un changement de nom chez leur maître. Vers la fin du XIXe siècle, la récurrence de ce schéma est devenue évidente à de nombreux observateurs. Alors se sont ouvertes des écoles de pensée qui interprétaient l'histoire comme un processus cyclique et qui prétendaient montrer que l'inégalité était la loi inaltérable de l'existence humaine. Cette doctrine, bien entendu, avait toujours eu des partisans, mais la manière dont elle était maintenant mise en avant constituait un changement significatif. Par le passé, la doctrine qui affirmait le besoin d'une forme hiérarchisée de société avait été l'apanage des classes supérieures. Cette doctrine avait été prêchée par les rois, les aristocrates, les prêtres, les gens de loi et autres parasites de ces classes dominantes. Et elle avait été en général adoucie par des promesses de compensation dans un au-delà imaginaire. Les classes moyennes, tant que cela pouvait être utile dans leur lutte pour le pouvoir, avaient toujours utilisé des termes comme liberté, justice et fraternité. Maintenant, le concept de fraternité humaine était mis à mal par des gens qui n'étaient pas encore aux commandes, mais qui espéraient y être avant longtemps. Dans le passé, les classes moyennes avaient fait des révolutions sous la bannière de l'égalité, puis elles avaient établi de nouvelles tyrannies à la place des anciennes. Les nouvelles classes moyennes annonçaient quant à elles leur tyrannie à l'avance. Le socialisme, une théorie qui apparut au début du XIXe siècle et qui était le dernier maillon d'une chaîne de pensée remontant aux rébellions d'esclaves dans l'Antiquité, était encore profondément travaillé par les utopies des âges passés. Mais dans les variantes du socialisme qui apparurent à partir de 1900, on abandonna de plus en plus ouvertement l'objectif de l'établissement de la liberté et de l'égalité. Les nouveaux mouvements qui apparurent au milieu du siècle, Sosang en Océanie, néo-bolchevisme en Eurasie, culte de la mort, comme on l'appelle couramment, en Estasie, poursuivait consciemment le but de perpétuer la non-liberté et la non-égalité. Ces nouveaux mouvements, bien sûr, s'étaient greffés sur les anciens et en avaient conservé les noms tout en payant un tribut à leur idéologie. Mais le but de ces mouvements était d'arrêter le progrès et de geler l'histoire à un moment donné. Le pendule familier allait se balancer une dernière fois, puis s'arrêter. Comme d'habitude, les classes supérieures allaient être chassées par les classes moyennes, qui deviendraient les classes supérieures, mais cette fois, par une stratégie consciente, elles seraient en capacité de maintenir perpétuellement leur position. Les nouvelles doctrines naquirent en partie à cause de l'accumulation du savoir sur l'histoire et du développement du sens historique, qui n'existait quasiment pas avant le XIXe siècle. Le mouvement cyclique de l'histoire était devenu intelligible, ou semblait l'être. Et s'il était intelligible, il était modifiable. Mais la cause principale et souterraine était que, dès le début du XXe siècle, l'égalité entre les hommes était devenue techniquement possible. Il demeurait vrai que les hommes n'étaient pas égaux dans leurs talents naturels, et que les fonctions attribuées à chacun devaient toujours favoriser certains individus par rapport à d'autres. Mais il n'y avait plus réellement besoin de classe sociale ou d'importantes différences de richesse. Dans les époques plus lointaines, la séparation en classes n'était pas seulement inévitable, mais souhaitable. L'inégalité était le prix de la civilisation. Avec la mécanisation, toutefois, la donne avait changé, même s'il était toujours nécessaire pour les êtres humains de faire différents types de métiers. Les différences de niveau social ou économique, elles, ne se justifiaient plus. Donc, pour les nouveaux groupes qui s'apprêtaient à prendre le pouvoir, l'égalité entre les hommes n'était plus un idéal à poursuivre, mais un danger à éviter. Dans les âges plus primitifs, alors qu'une société juste et pacifiée était, de fait, impossible, il avait été assez facile de croire en cet idéal. L'idée d'un paradis sur terre dans lequel les hommes pourraient vivre en frères, sans loi et sans suer sang et eau, a hanté l'imagination humaine pendant des millénaires. Et cette vision avait une certaine emprise, même sur les groupes qui profitaient des changements historiques. Les héritiers des révolutions françaises, anglaises et américaines avaient en partie cru en leur propre discours au sujet des droits de l'homme, de la liberté d'expression, de l'égalité devant la loi et de tout le reste. Et leur conduite avait même été en partie influencée par ces idéaux. Mais vers la quatrième décennie du XXe siècle, tous les courants de pensée majeurs étaient devenus autoritaires. Le paradis sur terre avait été discrédité au moment même où il était devenu réalisable. Toute nouvelle théorie politique, quelque nom qu'elle se donnât, ramenait à la vieille hiérarchie, au vieux compartimentage. Et dans le durcissement idéologique général des années 30, des pratiques qui avaient été abandonnées de longue date, parfois depuis des siècles, emprisonnement sommaire, utilisation des prisonniers de guerre comme esclaves, exécutions publiques, tortures destinées à extorquer des aveux, utilisation d'otages, déportation de populations entières, furent non seulement réintroduites, mais tolérées et même prônées par des gens qui se considéraient eux-mêmes comme éclairés et progressistes. Ce ne fut qu'après 10 ans de guerre nationale, de guerre civile, de révolution, de contre-révolution, dans toutes les parties du monde, que le Sosang et ses émules émergèrent comme de véritables théories politiques pleinement élaborées. Mais elles avaient été préfigurées par différents systèmes, généralement appelés totalitaires, qui étaient apparus plus tôt dans le siècle, et les grandes lignes du monde destinées à émerger du chaos étaient prévisibles depuis longtemps. Il était également facile de répondre à la question de savoir qui contrôlerait ce monde. La nouvelle aristocratie était composée pour une large part de bureaucrates, de scientifiques, de techniciens, de syndicalistes, de publicitaires, de sociologues, d'enseignants, de journalistes et de politiciens professionnels. Ces gens, issus de la classe moyenne salariée et des classes laborieuses supérieures, avaient été formés et rassemblés par le monde aride de l'industrie monopolistique et des gouvernements centralisés. Comparés à leurs homologues des âges passés, ils étaient moins avares, moins tentés par le luxe, mais plus affamés de pouvoir pur, et surtout plus conscients de ce qu'ils faisaient et plus déterminés à écraser toute opposition. Cette dernière différence était capitale. Par rapport à celle d'aujourd'hui, toutes les tyrannies du passé étaient timides et inefficaces. Les groupes dirigeants étaient toujours plus ou moins infectés d'idées libérales, et se satisfaisait de tenir la bride lâche, regardant sur l'action manifeste, mais peu soucieux de ce que leurs sujets pouvaient penser. Même l'Église catholique médiévale était tolérante pour les standards modernes. Ce qui explique en partie ce fait, c'est qu'aucun gouvernement du passé n'avait le pouvoir de surveiller constamment ses citoyens. L'invention de l'imprimerie, toutefois, facilita beaucoup la manipulation de l'opinion publique, et le film et la radio poussèrent le processus encore plus loin. Avec le développement de la télévision et l'avancée technologique qui rendit possible de recevoir et de transmettre simultanément avec le même instrument, s'en fut fini de la vie privée. Tout citoyen, ou du moins tout citoyen assez important pour être surveillé, pouvait être tenu 24 heures par jour, à la fois sous les yeux de la police et dans le bruit de la propagande officielle, tous les autres médias étant interdits. La possibilité d'imposer non seulement une complète obéissance aux volontés de l'État, mais également la complète uniformité des opinions sur tous les sujets, existait pour la première fois. Après la période révolutionnaire des années 50 et 60, la société se reforma, comme toujours, en classes supérieures, classes moyennes et basses classes. Mais le nouveau groupe dirigeant, contrairement à ses prédécesseurs, ne laissa rien au hasard. Il savait exactement ce qu'il fallait faire pour sauvegarder sa position. On avait depuis longtemps pris conscience que la seule base solide pour l'oligarchie était le collectivisme. La richesse et les privilèges sont plus faciles à défendre quand ils sont possédés en commun. La prétendue abolition de la propriété privée, qui eut lieu dans le milieu du siècle, signifiait en réalité la concentration de la propriété dans un nombre encore plus restreint de mains. Mais avec cette différence que les nouveaux propriétaires étaient un groupe au lieu d'être une masse d'individus. Individuellement, aucun membre du parti ne possède rien, en dehors de quelques effets personnels insignifiants. Collectivement, le parti possède tout en Océanie, parce qu'il contrôle tout et dispose des produits selon son bon vouloir. Dans les premières années qui ont suivi la Révolution, il était possible d'accéder à cette position de pouvoir presque sans rencontrer d'opposition, parce que l'ensemble du processus était présenté comme un acte de collectivisation. Il avait toujours été tenu pour acquis que si la classe capitaliste venait à être expropriée, ce serait le socialisme qui suivrait. Et de manière indubitable, les capitalistes avaient été expropriés. Les usines, les mines, les terres, les maisons, les transports, tout leur avait été confisqué, et puisque ces biens n'étaient plus la propriété privée de personne, il s'ensuivait qu'ils devaient être une propriété publique. Le Sosang, qui s'était développé à partir du mouvement socialiste et qui a hérité de sa phraséologie, a en réalité retiré le point majeur du programme socialiste, avec pour résultat, non seulement prévu, mais intentionnellement recherché, que l'inégalité économique deviendrait permanente. Cependant, assurer la pérennité d'une société hiérarchique est beaucoup plus complexe que cela. Il n'y a que quatre façons de s'effondrer pour une classe dirigeante. Soit elle est conquise de l'extérieur, soit elle gouverne si mal que cela provoque la révolte des masses, soit elle laisse éclore une classe moyenne forte et revendicatrice, soit elle perd sa confiance en elle et sa volonté même de gouverner. Ces clauses ne sont pas exclusives l'une de l'autre, et c'est même une règle que toutes les quatre soient présentes à des divers degrés. Une classe dominante qui pourrait se prémunir contre ces quatre dangers resterait au pouvoir de façon permanente. L'ultime facteur déterminant est l'attitude mentale de la classe dominante elle-même. Après le milieu du présent siècle, le premier danger était de fait écarté. Chacun des trois pouvoirs qui se partagent maintenant le monde est en effet hors de portée de toute conquête, et ne pourrait redevenir vulnérable que par de lents changements démographiques qu'un gouvernement aussi puissant pourrait aisément éviter. Le second danger est également purement théorique. Les masses ne se révoltent jamais par elles-mêmes et ne se révoltent jamais uniquement à cause de l'oppression. En vérité, tant qu'elles ne peuvent avoir aucun point de comparaison, elles ne sont même pas conscientes d'être opprimées. Les crises économiques récurrentes des temps passés étaient totalement inutiles et on les empêche aujourd'hui. Mais d'autres dislocations de même ampleur peuvent arriver, et arrivent d'ailleurs, sans avoir aucune conséquence politique, parce que le mécontentement ne trouve aucun moyen de se structurer. À l'instar du problème de la surproduction, latent dans nos sociétés depuis la mécanisation, ce problème est réglé par l'artifice de la guerre permanente, voire chapitre 3, très efficace pour maintenir le moral du public au niveau souhaité. Pour les nouveaux dirigeants, donc, les seuls dangers authentiques sont la scission d'un groupe de personnes capables, sous-employées et assoiffées de pouvoir, d'une part, et d'autre part, le progrès des idées libérales et du scepticisme dans leur propre rang. Autant dire que le problème relève de l'éducation. Il s'agit de modeler continuellement à la fois la classe dirigeante et la large classe de travailleurs qui se trouve immédiatement en dessous d'elle. La conscience des masses, elle, n'a besoin que d'être influencée dans un sens négatif. Étant donné ce contexte, on pourrait très bien deviner, sans la connaître, la structure générale de la société de l'Océanie. Au sommet de la pyramide se trouve Big Brother. Big Brother est infaillible et tout-puissant. Tout succès, toute réalisation, toute victoire, toute découverte scientifique, tout savoir, toute sagesse, tout bonheur, toute vertu sont imputés directement à son leadership et à son inspiration. Personne n'a jamais vu Big Brother. Il est un visage sur les affiches, une voix dans les crantelles. Nous pouvons raisonnablement affirmer qu'il ne mourra jamais, et un grand flou entoure déjà sa date de naissance. Big Brother est la forme sous laquelle le parti choisit de se manifester au monde. Sa fonction est de concentrer l'amour, la peur, la vénération, des émotions qu'on éprouve plus facilement envers un individu qu'envers une organisation. Sous Big Brother vient le cercle intérieur du parti. Sa population est limitée à 6 millions, soit un peu moins de 2% de la population de l'Océanie. Sous le cercle intérieur vient le cercle extérieur du parti, qui, si le cercle intérieur représente le cerveau, représenterait les mains. En dessous encore viennent les masses abruties que nous appelons en général les prolétaires, et qui représentent peut-être 85% de la population. Dans la terminologie que nous avons employée plus haut, les prolétaires sont les basses classes, car les populations esclaves des territoires équatoriaux, qui passent constamment d'un conquérant à l'autre, ne sont pas une partie permanente ni nécessaire de la structure. En principe, l'appartenance à ces trois groupes n'est pas héréditaire. L'enfant de membre du cercle intérieur du parti, en théorie, n'est pas né dans le cercle intérieur. L'admission dans l'une des deux branches du parti se fait par un examen à l'âge de 16 ans. Il n'y a pas non plus de discrimination raciale ou de prévalence d'une région sur une autre. Les Juifs, les Noirs, les Sud-Américains d'ascendance purement indienne peuvent se trouver dans les plus hauts rangs du parti, et les administrateurs d'une zone donnée sont toujours issus de cette zone. Nulle part en Océanie, les habitants n'ont l'impression d'être une population colonisée, dirigée par de lointains financiers. L'Océanie n'a pas de capitale, et personne ne connaît les origines de son chef. En dehors du fait que l'anglais est sa principale lingua franca, et que la neuve langue est son langage officiel, l'Océanie n'est absolument pas centralisée. Ses dirigeants ne sont pas soudés par des liens du sang, mais par l'adhésion à une doctrine commune. Il est vrai que notre société est stratifiée et d'une manière très rigide, sur une base qui peut sembler à première vue héréditaire. Il y a en effet beaucoup moins de va-et-vient entre les différents groupes qu'il n'en existait du temps du capitalisme, ou même au temps de l'ère pré-industrielle. Entre les deux branches du parti, il y a un certain flux, mais seulement pour permettre aux maillons faibles du cercle intérieur d'en être exclus et aux membres ambitieux du cercle extérieur d'être neutralisés par une promotion. Les prolétaires, en pratique, ne peuvent pas réussir aux examens du parti. Les plus doués d'entre eux, susceptibles de devenir des noyaux de mécontentement, sont simplement identifiés et éliminés par la police de la pensée. Mais cet état de choses n'est pas nécessairement permanent, et ce n'est pas une affaire de principe. Le parti n'est pas une classe dans le sens ancien du terme. Il ne vise pas à transmettre le pouvoir à ses propres enfants, par exemple. Et s'il n'y avait pas d'autre moyen de conserver les gens les plus compétents en haut de l'échelle, il serait prêt à recruter une nouvelle génération complète dans les rangs du prolétariat. Dans les années cruciales, le fait que le parti ne soit pas un corps héréditaire fit beaucoup pour neutraliser l'opposition. La vieille garde socialiste, qui avait été entraînée pour lutter contre quelque chose qui s'appelait les privilèges de classe, était persuadée que ce qui n'était pas héréditaire ne pouvait pas être permanent. C'était ignorer que la continuité d'une oligarchie n'a pas besoin d'être physique. C'était ignorer aussi que les aristocraties héréditaires n'ont jamais eu une grande longévité, alors que les organisations basées sur l'adoption, comme l'Église catholique, ont pu perdurer pendant des centaines, voire des milliers d'années. L'essence d'une oligarchie n'est pas la succession dynastique, mais la persistance d'une certaine conception du monde et d'une certaine façon de vivre, imposée par les morts aux vivants. Un groupe dirigeant reste le groupe dirigeant tant qu'il peut nommer ses successeurs. Le parti cherche non à perpétuer son sang, mais à se perpétuer lui-même. L'identité de ceux qui exercent le pouvoir n'a aucune importance tant que la structure hiérarchique reste la même. Toutes les croyances, les habitudes, les goûts, les émotions, les attitudes mentales qui caractérisent notre temps sont conçues pour soutenir la mystique du parti et empêcher que la véritable nature de la société contemporaine ne soit percée à jour. La rébellion physique, ou même tout acte préliminaire à une rébellion, est aujourd'hui inconcevable. Rien n'est à craindre du côté des prolétaires. Livrés à eux-mêmes, ils vont continuer, de génération en génération et de siècle en siècle, à travailler, enfanter et mourir, non seulement sans aucune pulsion de rébellion, mais même sans la moindre conscience que le monde pourrait être autrement qu'il n'est. Il ne pourrait devenir dangereux que si l'avancée des techniques industrielles rendait nécessaire de les éduquer davantage. Mais comme la compétition commerciale et militaire n'a plus aucune importance, le niveau d'éducation populaire a plutôt tendance à baisser. Les opinions des masses, dans un sens ou dans un autre, sont regardées comme indifférentes. On peut leur accorder la liberté intellectuelle, puisqu'ils n'ont pas d'intellect. Chez un membre du parti, au contraire, on ne peut tolérer la moindre déviation de l'opinion sur le sujet le plus insignifiant qui soit. Un membre du parti vit, de la naissance à la mort, sous le regard de la police de la pensée. Même quand il est seul, il n'est jamais sûr d'être seul. Où qu'il soit, éveillé ou endormi, au travail ou au repos, dans son bain, dans son lit, il peut être inspecté sans avertissement, et sans même le savoir. Rien de ce qu'il fait n'est indifférent. Ses amitiés, ses façons de se détendre, son comportement envers sa femme et ses enfants, l'expression de son visage lorsqu'il est seul, les mots qu'il marmonne dans son sommeil, et même les mouvements caractéristiques de son corps sont scrutés jalousement. Ne seront pas uniquement détectées les déviances réelles, mais aussi la moindre excentricité, le moindre changement dans les habitudes, la moindre particularité nerveuse qui pourrait être le symptôme d'une lutte intérieure. Il n'a aucun libre arbitre, d'aucune sorte. D'un autre côté, ses actions ne sont pas encadrées par la loi ou par quelques codes du comportement clairement formulés. En Océanie, il n'y a pas de loi. Les pensées et les actions qui, quand elles sont repérées, sont à coup sûr passibles de mort, ne sont pas formellement interdites. Et les purges incessantes, les arrestations, les tortures, les emprisonnements et les vaporisations ne sont pas infligées en punition des crimes qui ont été réellement commis. Ils représentent seulement l'élimination de personnes qui pourraient éventuellement commettre un crime un jour dans le futur. On ne demande pas seulement à un membre du parti d'avoir les bonnes opinions, mais aussi les bons instincts. Bien des croyances et des attitudes qu'on attend de lui ne seront jamais pleinement explicitées, et ne pourraient pas l'être sans mettre à nu les contradictions inhérentes au Sosang. S'il s'agit d'une personne naturellement orthodoxe, en 9 langues un bon penseur, il saura toujours, en toutes circonstances, sans avoir besoin d'y réfléchir, quelle est la croyance vraie ou l'émotion à ressentir. Et de toute façon, grâce à un entraînement mental élaboré, entrepris depuis l'enfance et reposant sur les mots de 9 langues « stop crime »,« noir blanc » et « pensée double », il n'a ni l'envie ni la capacité de réfléchir trop intensément à quelque sujet que ce soit. Un membre du parti ne doit pas avoir d'émotions privées ni de relâche dans l'enthousiasme. On lui demande de vivre dans une perpétuelle frénésie de haine envers les ennemis extérieurs et les traîtres intérieurs, de joie d'avoir remporté des victoires et d'humilité devant le pouvoir et la sagesse du parti. Les mécontentements produits par la vie austère et insatisfaisante sont délibérément dirigés vers l'extérieur et peuvent trouver un défouloir artificiel, par exemple, dans les 2 minutes de la haine. Les spéculations qui pourraient éventuellement induire une attitude sceptique ou séditieuse sont étouffées dans l'œuf par l'assimilation d'une discipline précoce. Le premier niveau, le plus simple, de cette discipline, qui peut être enseigné même aux jeunes enfants, est appelé en 9 langues « stop crime ». Stop crime désigne la faculté de s'arrêter net, comme par instinct, au seuil d'une pensée dangereuse. Cela inclut le pouvoir de ne pas faire de comparaison, de ne pas remarquer les erreurs logiques, de ne pas comprendre les arguments les plus simples lorsqu'ils semblent défavorables au Sosang, ou de se sentir rempli d'ennui et de dégoût devant toute pensée capable de vous mener dans une direction hérétique. Stop crime, pour faire court, désigne une stupidité protectrice. Mais la stupidité n'est pas encore assez. Au contraire, l'orthodoxie au plein sens du terme demande un contrôle de son propre processus mental, un contrôle aussi absolu que celui qu'exerce le contorsionniste sur son corps. La société de l'Océanie repose entièrement sur la croyance que Big Brother est omnipotent et que le parti est infaillible. Mais comme en réalité Big Brother n'est pas omnipotent et que le parti n'est pas infaillible, il faut une infatigable et quotidienne flexibilité dans le traitement des faits. Le mot-clé ici est « noir-blanc ». Comme tant de mots de la 9 langue, ce mot est doté de 2 sens contradictoires. Appliqué à un opposant, il signifie l'habitude de prétendre avec impudence que le noir est blanc, en contradiction flagrante avec les faits. Appliqué à un membre du parti, il désigne la bonne volonté pour dire loyalement que le noir est blanc quand la discipline du parti l'exige. Mais il signifie aussi la capacité à croire que le noir est blanc, et bien plus encore à savoir que le noir est blanc, et à oublier qu'on a pu un jour croire le contraire. Cela demande une altération continuelle du passé, rendu possible par le système de pensée qui englobe véritablement tout le reste et qui est connu en 9 langues sous le nom de « pensée double ». L'altération du passé est rendue nécessaire pour 2 raisons, dont l'une est subsidiaire et, si l'on peut dire, préventive. La raison subsidiaire est que le membre du parti, tout comme le prolétaire, n'arrive à tolérer ses conditions de vie que parce qu'il est dépourvu d'éléments de comparaison. Il doit donc être coupé du passé, exactement pour la même raison qu'il doit être coupé des pays étrangers, parce qu'il est nécessaire qu'il croit être dans de meilleures conditions que ses ancêtres et participer à un progrès constant du niveau de confort matériel. Mais la plus importante raison au réajustement du passé de loin et la nécessité de préserver l'infaillibilité du parti. Ce n'est pas seulement que tous les discours, statistiques et archives en tout genre doivent être constamment mis à jour pour prouver que les prédictions du parti sont toujours exactes. C'est aussi qu'aucun changement dans la doctrine ou la ligne politique du parti ne peut jamais être reconnu. Car changer d'avis ou même changer de politique est un aveu de faiblesse. Si par exemple l'Eurasie ou l'Estasie, n'importe lequel des deux, est l'ennemi d'aujourd'hui, alors ce pays doit avoir été l'ennemi de tout temps. Et si les faits disent autre chose, alors les faits doivent être modifiés. Ainsi, l'histoire est réécrite en permanence. Cette falsification quotidienne du passé, qui est la charge du ministère de la vérité, est aussi nécessaire à la stabilité du régime que le travail de répression et d'espionnage réalisé par le ministère de l'amour. La mutabilité du passé est un principe central du Sosang. Les événements passés, est-il dit, n'ont pas d'existence objective, mais ne survivent que dans les archives écrites et les mémoires humaines. Le passé est donc ce sur quoi les archives et les souvenirs sont d'accord. Et puisque le parti exerce un contrôle total sur toutes les archives et un contrôle tout aussi total sur les esprits de ses membres, il s'ensuit que le passé est exactement ce que le parti choisit d'en faire. Il s'ensuit également que, bien que le passé soit altérable, il n'a jamais été altéré dans aucun cas particulier, car lorsqu'il est recréé selon la forme exigée par le moment, alors cette nouvelle version est le passé, et aucun passé différent n'a jamais existé. Ceci tient bon même lorsque, comme cela arrive régulièrement, le même événement doit être remanié incognito plusieurs fois en une seule année. À tout instant, le parti est dépositaire de la vérité absolue, et il est évident que l'absolu ne peut avoir une forme différente de celle qu'elle revêt maintenant. On verra que le contrôle du passé dépend par-dessus tout de l'entraînement de la mémoire. S'assurer que toutes les archives écrites sont cohérentes avec la doxa du moment est un acte purement mécanique. Mais il faut aussi se rappeler que les événements se sont produits de cette manière. Et si on a besoin de remanier ses souvenirs ou de tripoter les archives écrites, il faut oublier qu'on l'a fait. Ce tour de passe-passe s'apprend comme d'autres techniques mentales. La plupart des membres du parti l'apprennent, en tout cas ceux qui sont à la fois intelligents et orthodoxes. En vieille langue, on appelle ça, assez franchement, le contrôle de la réalité. En neuve langue, on appelle cela « pensée double », bien que « pensée double » veuille dire beaucoup plus que cela. La pensée double est le pouvoir de garder à l'esprit deux croyances contradictoires simultanément et de les accepter toutes les deux. L'intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés. Il sait donc qu'il est en train de prendre des libertés avec le réel. Mais par l'exercice de la pensée double, il parvient à se convaincre aussi que le réel n'est pas entamé. Le processus doit être conscient, ou bien il n'opérerait pas avec une précision suffisante. Mais il doit aussi être inconscient, ou bien il apporterait un sentiment de fausseté et, par conséquent, de culpabilité. La pensée double constitue naturellement le cœur du Sosang, étant donné que le parti passe le plus clair de son temps à mentir délibérément, tout en affichant une détermination qui va de pair avec l'honnêteté la plus complète. Dire des mensonges délibérés, tout en y croyant sincèrement, oublier les faits qui deviennent gênants, et puis, quand ils redeviennent nécessaires, les tirer momentanément de l'oubli, nier l'existence d'une réalité objective, tout en prenant en compte cette réalité niée, tout ceci est absolument indispensable. Même pour utiliser le mot « pensée double », il faut s'exercer à la pensée double. Parce qu'utiliser le mot suppose d'admettre qu'on manipule la réalité, mais par un nouvel acte de pensée double, on efface ce qu'on a admis, et ainsi de suite, indéfiniment, le mensonge ayant toujours un temps d'avance sur la vérité. C'est en définitive par le moyen de la pensée double que le parti a été capable et restera capable, comme nous le savons tous, pour des milliers d'années, d'arrêter le cours de l'histoire. Si toutes les oligarchies du passé ont fini par tomber, c'est soit parce qu'elles se sont sclérosées, soit parce qu'elles se sont amollies. Dans le premier cas, elles sont devenues stupides et arrogantes, incapables de s'adapter au changement des circonstances et furent balayées. Dans le second cas, elles sont devenues libérales et lâches, ont fait des concessions là où elles auraient dû employer la force, et furent balayées une fois de plus. Cela signifie que leur échec est dû à leur conscience ou à leur inconscience. C'est le grand succès du parti d'avoir produit un système de pensée dans lequel les deux pouvaient coexister. Et c'est la seule base intellectuelle sur laquelle la domination du parti pouvait s'appuyer de manière permanente. Si on commande et si on doit continuer à commander, il faut être capable de détruire le sens du réel. Parce que le secret du commandement est de combiner une croyance dans l'infaillibilité du leader avec la possibilité d'apprendre des erreurs passées. Autant dire que les adeptes les plus subtils de la pensée double sont ceux qui l'ont inventée et qu'ils savent qu'il s'agit d'un vaste système de tricherie mentale. Dans notre société, ceux qui ont la meilleure connaissance de ce qui arrive sont également ceux qui sont le plus éloignés d'une perception ordinaire du monde tel qu'il est. En général, plus on avance dans la compréhension, plus on avance dans l'illusion. Plus on est intelligent, moins on est sain d'esprit. Une parfaite illustration est le fait que l'hystérie guerrière augmente d'intensité à mesure qu'on monte l'échelle sociale. Ceux dont l'attitude face à la guerre se rapproche le plus du bon sens, ce sont les populations assujetties des territoires disputés. Pour ces gens, la guerre est simplement une calamité perpétuelle qui s'abat régulièrement sur leur corps comme une marée. Il leur est parfaitement indifférent de savoir qui est en train de gagner. Ils sont conscients qu'un changement d'alignement signifie qu'ils réaliseront le même travail qu'auparavant, mais pour le compte de nouveaux maîtres, qui les traiteront exactement de la même manière que les précédents. Les travailleurs un peu plus favorisés que nous appelons les prolétaires ne sont conscients de la guerre que par intermittence. Quand il le faut, ils peuvent être poussés dans des frénésies de peur et de haine, mais quand ils sont livrés à eux-mêmes, ils sont capables d'oublier pendant de longues périodes qu'une guerre est en cours. C'est dans les rangs du parti, et surtout du cercle intérieur du parti, qu'on trouve le vrai enthousiasme guerrier. La conquête du monde est une croyance d'autant plus forte chez ceux qui savent qu'elle est impossible. Cette alliance particulière d'opposés, savoir et ignorance, cynisme et fanatisme, est l'un des principaux traits distinctifs de l'Océanie. L'idéologie officielle abonde en contradictions, même lorsque ces dernières n'ont aucun intérêt pratique. Ainsi, le parti vilipende et rejette tous les principes originaires du socialisme, et il choisit de le faire au nom même du socialisme. Il prêche un mépris des classes laborieuses qui n'a aucun exemple dans les siècles passés, et il habille ses membres dans un uniforme qui était à une époque l'emblème des travailleurs manuels, et qui a été choisi pour cette raison précise. Il ruine systématiquement la solidarité familiale, et il appelle son chef d'un nom qui est un appel direct au sentiment de la loyauté familiale. Même les noms des quatre ministères qui nous gouvernent affichent une sorte d'impudence dans leur renversement délibéré des faits. Le ministère de la paix s'occupe de la guerre, le ministère de la vérité s'occupe des mensonges, le ministère de l'amour de la torture, et le ministère de l'abondance de l'organisation de la famine. Ces contradictions ne sont pas accidentelles et ne résultent pas d'une hypocrisie ordinaire. Elles sont des exercices délibérés de pensée double. Car c'est seulement en réconciliant les contradictions que le pouvoir peut être conservé indéfiniment. Il est impossible, par un autre moyen, de briser l'ancien cycle. Si l'égalité entre les hommes doit être empêchée à jamais, si les classes supérieures, comme nous les avons appelées, doivent conserver leur place de façon permanente, alors il faut que la condition mentale dominante soit une démence contrôlée. Mais il est une question que, jusqu'à présent, nous avons presque laissée de côté. C'est pourquoi l'égalité entre les hommes devrait-elle être empêchée ? À supposer que les mécanismes du processus ont été correctement décrits, quelle est la raison d'être de cet effort énorme, planifié avec soin, pour geler l'histoire à un moment donné du temps ? Ici, nous atteignons le secret central. Comme nous l'avons vu, la mystique du parti, et surtout du cercle intérieur du parti, dépend de la pensée double. Mais il y a un soubassement encore plus profond, lieu de la raison originelle, l'instinct non pensé qui a conduit d'abord à la prise de pouvoir, puis à l'élaboration de la pensée double, de la police de la pensée, de la guerre permanente et de tout le reste de l'attirail nécessaire. Cette raison consiste réellement en...
Winston prit conscience du silence, comme on prend conscience d'un bruit nouveau. Il lui semblait que Julia avait été particulièrement immobile depuis un moment. Elle était allongée sur le flanc, nue jusqu'à la taille, la joue contre la paume de sa main et une boucle noire tombant sur ses yeux. Son souffle faisait régulièrement monter et descendre sa poitrine.
« Julia !»
Pas de réponse.
« Julia, tu es réveillée ?»
Pas de réponse. Elle était endormie. Il referma le livre, le posa délicatement au sol, s'allongea et tira la couverture sur eux deux. Il n'avait pas, songea-t-il, appris l'ultime secret. Il comprenait comment, mais il ne savait pas pourquoi. Le chapitre 1, comme le chapitre 3, ne lui avait rien appris qu'il ne sût déjà. Il avait simplement donné forme à la connaissance qui était en lui. Mais après sa lecture, il savait mieux que jamais qu'il n'était pas fou. Être en minorité, même s'il s'agissait d'une minorité d'un seul, ne faisait pas de vous un fou. Il y avait une vérité, et il y avait du mensonge, et si vous vous accrochiez à la vérité, même envers et contre le monde entier, vous n'étiez pas un fou. Un rayon jaune, émanant du soleil déclinant, passa oblique par la fenêtre et tomba sur l'oreiller. Il ferma les yeux. Le soleil sur son visage et le corps lisse de la fille contre le sien lui donnèrent une sensation de confiance et de torpeur. Il était en sécurité, tout allait bien. Il s'endormit en murmurant
« La santé mentale n'est pas statistique. »
Persuadé que cette remarque contenait une profonde sagesse. Quand il s'éveilla, ce fut avec l'impression d'avoir dormi longtemps, mais un regard à l'horloge ancienne lui annonça qu'il n'était que 20:30. Il resta somnolent pendant un moment, puis le chant familier éclata à plein poumon de la cour d'en bas. C'était juste un rêve sans espoir qui est passé comme un jour d'avril. Un regard et un mot ont brisé mes rêves, ont emporté mon cœur. Cette chanson idiote paraissait toujours aussi populaire. Vous l'entendiez toujours partout. Elle avait survécu à la chanson de la haine. Julia s'éveilla à ce bruit, s'étira voluptueusement et sortit du lit. « J'ai faim, » dit-elle. « Faisons du café. »« Bon Dieu, le feu est éteint et l'eau est froide. » Elle saisit le réchaud et le secoua. Il n'y a plus d'huile.
« Je suppose qu'on peut en obtenir de ce vieux Charrington. »«
C'est bizarre. Je m'étais assurée que c'était plein. »« Je vais m'habiller, » ajouta-t-elle. « On dirait que ça s'est rafraîchi. » Winston aussi se leva et s'habilla. La voix infatigable continuait à chanter. Ils disent que le temps guérit tout, ils disent qu'on peut toujours oublier, mais les sourires et les larmes, malgré les années, font toujours vibrer les cordes de mon cœur. Tout en attachant la ceinture de son bleu de travail, Winston flâna à la fenêtre. Le soleil devait s'être couché derrière les maisons, il n'entrait plus dans la cour. Les pavés étaient mouillés comme s'ils venaient d'être lavés, et il eut l'impression que le ciel avait été lavé lui aussi, tant le bleu parmi les cheminées était frais et pâle. Infatigable, la femme allait et venait, chantante puis silencieuse, occupée à étendre encore et encore toujours plus de couches. Il se demanda si elle faisait de la blanchisserie pour vivre, ou si elle était seulement l'esclave d'une vingtaine ou d'une trentaine de petits-enfants. Julia était venue contre lui. Ensemble, ils regardaient avec une sorte de fascination la silhouette robuste en dessous d'eux. Comme ils regardaient la femme dans son attitude caractéristique, avec ses bras épais tendus vers le fil et ses fesses puissantes, protubérantes et chevalines, il fut frappé pour la première fois par sa beauté. Il ne s'était jamais dit auparavant que le corps d'une femme de 50 ans, porté à des dimensions monstrueuses par les grossesses, puis endurci, abîmé par le travail jusqu'à ce qu'il soit usé jusqu'à la fibre comme un navet pourri, put être beau. Mais c'était le cas. Et après tout, pourquoi pas, pensa-t-il. Le corps massif, informe comme un bloc de granit, avec sa peau rouge et râpeuse, était au corps d'une jeune fille ce que la rose était au bouton. Pourquoi le fruit devait-il être tenu pour inférieur à la fleur ?
« Elle est belle !»
murmura-t-il. « Son tour de hanche fait au moins 1 mètre, » dit Julia.
« C'est son genre de beauté, »
dit Winston. Il enlaça sans peine, de son bras, la taille souple de Julia. De la hanche au genou, son flanc était contre le sien. Aucun enfant ne naîtrait jamais de leur corps. C'était bien la chose qu'ils ne pourraient jamais faire. Le secret ne pouvait être transmis que par les paroles orales, d'esprit à esprit. La femme en bas n'avait pas d'esprit. Elle avait seulement des bras forts, un cœur chaud et un ventre fertile. Il se demanda à combien d'enfants elle avait donné naissance. Facilement 15. Elle avait eu son moment de floraison, 1 an, peut-être, d'une beauté de rose sauvage, puis elle avait soudainement gonflé comme un fruit fertilisé, et elle était devenue dure, rouge et rugueuse, et ensuite sa vie s'était réduite à faire la lessive, récurer, repriser, cuisiner, balayer, faire briller, frotter, réparer, récurer, faire la lessive. Et au bout de tout cela, elle chantait encore. La révérence mystique qu'il ressentait à son égard était comme mélangée à la pâleur du ciel sans nuages qui s'étirait derrière les cheminées à perte de vue. Il était curieux de penser que le ciel était le même pour tout le monde, en Eurasie ou en Estasie, aussi bien qu'ici. Et sous le soleil, les gens étaient exactement les mêmes aussi, des gens qui n'avaient jamais appris à penser, mais qui renfermaient dans leur cœur, dans leur ventre et dans leurs muscles, le pouvoir qui pourrait un jour renverser le monde. S'il reste de l'espoir, il se trouve chez les prolétaires. Sans même avoir lu la fin du livre, il savait que ce devait être le message final de Goldstein. L'avenir appartenait aux prolétaires, et pouvait-il être sûr que quand leur tour viendrait, le monde qu'il bâtirait ne serait pas tout aussi étranger pour lui, Winston Smith, que le monde du parti ? Oui, parce qu'au moins ce serait un monde de santé mentale. Quand il y a de l'égalité, il peut y avoir de la santé mentale. Tôt ou tard, cela arriverait. La force se mûrait en conscience. Les prolétaires étaient immortels. Vous ne pouviez en douter quand vous regardiez cette vaillante silhouette dans la cour. À la fin, il se réveillerait. Et en attendant que cela arrive, même si cela ne devait arriver que dans 1000 ans, il resterait vivant, contre vents et marées, comme des oiseaux, et se transmettrait de corps à corps la vitalité que le parti ne possédait pas et ne pouvait pas tuer.
Tu te rappelles la grive qui chantait pour nous le premier jour à l'orée du bois ?
Elle ne chantait pas pour nous, dit Julia. Elle chantait pour se faire plaisir à elle-même, et encore même pas. Elle chantait, c'est tout. Les oiseaux chantaient, les prolétaires chantaient. Le parti ne chantait pas. Partout dans le monde, de Londres à New York, en Afrique et au Brésil, et dans les terres mystérieuses et interdites au-delà des frontières, dans les rues de Paris et de Berlin, dans les villages de l'interminable plaine russe, dans les bazars chinois et japonais, partout se tenait la même silhouette solide et imprenable, rendue monstrueuse par le travail et l'enfantement, qui se crevait au travail de la naissance à la mort, et pourtant chantait toujours. De ses reins puissants, une race d'êtres conscients devait un jour s'élever. Vous étiez les morts, le futur leur appartenait. Mais vous pouviez partager ce futur si vous gardiez l'esprit vif, comme ils gardaient leur corps vivant, si vous passiez cette doctrine secrète que 2 + 2 = 4.
« Nous sommes les morts, »
dit-il. « Nous sommes les morts, » fit Julia en écho.
« Vous êtes les morts, »
dit une voix métallique derrière eux. Ils se séparèrent d'un bond. Les entrailles de Winston semblaient s'être glacées. Il pouvait voir le blanc tout autour des iris de Julia, dont le visage était devenu d'un jaune laiteux. La trace de rouge qui restait sur les pommettes ressortait vivement, presque comme si elle n'était plus reliée à la peau.
« Vous êtes les morts !»
répéta la voix métallique. « C'était derrière le tableau !» souffla Julia.
« C'était derrière le tableau !»
dit la voix.
« Restez exactement où vous êtes !» Ne faites aucun mouvement avant qu'on vous en donne l'ordre.
Cela commençait enfin. il ne pouvait rien faire à part rester debout, les yeux dans les yeux. S'enfuir en courant, sortir de la maison avant qu'il soit trop tard, aucune pensée de ce genre ne leur vint à l'esprit. Inconcevable de désobéir à la voix d'acier qui sortait du mur. Il y eut un claquement, comme si un loquet avait été actionné, et un bruit de verre brisé. L'image était tombée à terre, révélant l'écrantelle derrière elle. « Maintenant, ils peuvent nous voir, » dit Julia.
« Maintenant, nous pouvons vous voir, »
dit la voix.
« Tenez-vous debout au milieu de la pièce, dos à dos. Mettez vos mains sur la tête. Ne vous touchez pas l'un l'autre. »
Ils ne se touchaient pas, mais il sembla à Winston qu'il pouvait sentir le corps de Julia trembler. Ou peut-être était-ce seulement le tremblement de son propre corps. Il ne pouvait pas empêcher ses dents de claquer, mais ses genoux étaient sous contrôle. Il y eut un bruit de bottes en bas, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. La cour semblait pleine d'hommes. Quelque chose était tiré sur les pierres. Le chant de la femme s'était arrêté brutalement. Il y eut un long bruit de roulement, comme si le baquet avait été jeté en travers de la cour, et puis un brouhaha de cris hargneux, suivi d'un gémissement de douleur.
« La maison est encerclée !»
dit Winston.
« La maison est encerclée !»
dit la voix. Il entendit Julia claquer des dents. « Je crois que nous ferions aussi bien de nous dire au revoir, » dit-elle.
« Vous pouvez vous dire au revoir, »
dit la voix. Et alors une voix très différente, une voix fine et cultivée que Winston avait l'impression d'avoir déjà entendue auparavant, le frappa.
« Et au fait, pendant que nous abordons le sujet, voici une bougie pour éclairer ton lit, voici un hachoir pour te couper la tête. »
Quelque chose s'écrasa sur le lit derrière le dos de Winston. Le haut d'une échelle avait été posé contre la fenêtre et avait cogné l'encadrement. Quelqu'un était en train de grimper et de passer par la fenêtre. Il y eut une bousculade de bottes dans les escaliers. La chambre fut pleine d'hommes puissants, en uniforme noir, avec des bottes ferrées et des matraques à la main. Winston ne tremblait plus. Même ses yeux bougeaient à peine. Une seule chose importait, rester immobile. Restez immobile et ne leur donnez aucune excuse pour vous frapper. Un homme avec une mâchoire lisse de boxeur et dont la bouche se réduisait à une fente s'arrêta en face de lui, balançant sa matraque entre le pouce et l'index d'un air méditatif. Le sentiment d'être nu, avec les mains derrière la tête et le visage et le corps entièrement exposés, était presque insupportable. L'homme sortit le bout d'une langue blanche, lécha l'endroit où auraient dû se trouver ses lèvres, et passa. Il y eut un autre bruit de verre. Quelqu'un avait pris le presse-papier en verre sur la table et l'avait fait voler en éclats dans l'âtre. Le fragment de corail, minuscule comme un bouton de rose en sucre sur un gâteau, roula sur le tapis. « C'était si petit, » pensa Winston. « Cela avait toujours été si petit. » Il y eut un halètement et un coup derrière lui, et quelque chose heurta violemment sa cheville, presque au point de lui faire perdre l'équilibre. L'un des hommes avait écrasé son poing sur le plexus solaire de Julia, la pliant en deux comme un maître de poche. Elle se débattait par terre pour reprendre son souffle. Winston n'osa pas tourner la tête, ne fût-ce que d'un millimètre, mais par moments le visage livide de Julia, haletant, apparaissait dans son champ de vision. Même dans sa terreur, c'était comme s'il pouvait sentir la douleur dans son propre corps, la douleur mortelle, qui était pourtant moins pressante que la lutte pour retrouver le souffle. Il savait ce que c'était, la douleur terrible, atroce, qui était là tout du long, mais qu'il n'était pas vraiment possible d'éprouver, parce qu'avant toute autre chose, il fallait reprendre sa respiration. Puis deux des hommes la soulevèrent par les genoux et les épaules et la portèrent hors de la pièce comme un sac. Winston jeta un regard à son visage, sans dessus-dessous, jaune et déformé, les yeux fermés, avec encore une trace de poudre sur chaque joue, et ce fut la dernière image qu'il eut d'elle. Il se tenait absolument figé. Personne encore ne l'avait frappé. Des pensées commencèrent à surgir dans son esprit, des pensées spontanées et dénuées de tout intérêt. Il se demanda s'ils avaient eu Mr. Charrington. Il se demanda ce qu'ils avaient fait à la femme dans la cour. Il remarqua qu'il avait très envie d'uriner et s'en étonna un peu car il y était allé seulement 2 ou 3 heures auparavant. il remarqua que l'horloge sur le manteau de la cheminée indiquait 9, ce qui signifiait 21:00. Mais la lumière paraissait trop forte. Est-ce que la lumière ne devait pas être déclinante à 21:00, un soir d'août? Il se demanda si après tout Julia et lui ne s'étaient pas trompés sur l'heure, s'ils n'avaient pas fait le tour du cadran, et ne s'étaient pas imaginé qu'il était 20:30, alors qu'il était en réalité 8:30 le matin suivant. Mais il ne prit pas la peine de suivre cette idée. Elle n'avait aucun intérêt. Il y eut un nouveau pas dans le couloir, plus léger. Mr. Charrington entra dans la pièce. L'attitude des hommes en uniforme noir se fit soudain plus respectueuse. Quelque chose avait changé aussi dans l'apparence de Mr. Charrington, dont les yeux tombèrent sur les fragments du presse-papier en verre.
« Ramassez les morceaux !»
dit-il d'un ton sec. Un homme bondit pour obéir. L'accent cockney avait disparu. Winston réalisa soudain qu'il s'agissait de la voix qu'il venait d'entendre quelques instants auparavant, dans les crantelles. Mr. Charrington portait toujours sa vieille veste de velours, mais ses cheveux, qu'il avait presque blancs, étaient devenus noirs. Et aussi, il ne portait plus ses lunettes. Il lança à Winston un coup d'œil rapide, comme pour vérifier son identité, et ensuite il ne lui prêta plus aucune attention. Il était toujours reconnaissable, mais il n'était plus la même personne. Son corps s'était redressé et semblait avoir grandi. Son visage avait subi d'infimes changements qui pourtant le transformaient complètement. Les sourcils noirs étaient moins broussailleux, les rides avaient disparu, les lignes du visage semblaient altérées, même le nez paraissait plus court. C'était le visage froid et vif d'un homme d'environ 35 ans. Et Winston songea que pour la première fois de sa vie, il était en train de regarder, en toute connaissance de cause, un membre de la police de la pensée.
Fin de la deuxième partie.